Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Quoi de commun entre les films de ce dernier grand écran de Vivante Église de la saison 2018-2019 ? Peut-être l'amour de la vie. Un amour de la vie en forme de photographie aux airs de poésie romantique du début du siècle, selon les mots de la réalisatrice pour le premier film à l'affiche. Un amour de la vie en forme de passion amoureuse, se transformant peu à peu en amour vrai, face au faux prophète de l'amour pour le chef-d'œuvre humaniste de ce mois. Enfin, un amour de la vie en forme de passion mystique pour Dieu, incompréhensible à celui qui ne croit pas et presque tout autant bouleversant pour celui qui l'a entrevu, pour ce chef-d'œuvre spirituel du mois. Bref, parlez-nous d'amour. C'est donc le grand écran de Vivante Église aujourd'hui avec nos deux messieurs cinéma qui pour cette dernière sont fidèles au rendez-vous. Paul Dima, monsieur cinéma des Cotopaïs, centre jésuite de spiritualité dans le sud-ouest et animateur pour rappel du Ciné-Parole, ciné-club en lien avec le cinéma L'ABC à Toulouse. Et Louis-Marie Soler qui est lui-même animateur dans ce Ciné-Parole et monsieur cinéma de N'oubliez pas l'ouvreuse, émission de cinéma de Radio Présence, évidemment. Mercredi soir, 19h. On va commencer par un film, donc le film à l'affiche que vous avez choisi. Je précise juste qu'il n'y a plus de ciné-parole, voilà, en cette fin d'année, mais que rendez-vous est évidemment donné à la rentrée prochaine. Premier film donc à l'affiche, ça ne vous empêche pas d'aller le voir, même s'il n'y a pas de ciné-parole. Et puis peut-être cette émission fera-t-elle office de mini ciné-parole. Jéricho, le vol infini des jours. Voilà, en espagnol, Jéricho, el infinito vuelo de los días, de Catalina Messi. Oui, c'est une déformation professionnelle. Je vois des Messi partout, pendant la Coupe du Monde et le reste de l'année. Voilà, film donc qui est tourné en Colombie, dans un petit village, village de Jéricho. On va peut-être commencer par écouter un extrait de la bande-annonce qui est en espagnol. Et puis après, on va se lancer dans le commentaire de ce film.
Señor, llegó la chila.
Este es el marido mío.
Muy bonito.
Miren los ojos, vea.
¿Qué se me dijo? Que es que los tres meses para probarme cómo me manejaba con él.
Voilà, on va pas continuer parce que tout le monde ne parle pas espagnol. On avait déjà fait ça en allemand une fois précédente. Comment vous présenteriez ce film, Louis-Marie, avant que je vous relance ?
Eh bien, Catalina Mesa connaît ce village, cette ville, cette petite ville. Parce que dire que c'est un village, ça serait quand même réducteur. C'est plus grand qu'un village, mais c'est une petite ville. Jéricho, qui est coincée dans les replis de la cordillère des Andes, au fond d'une vallée du sud-ouest de la province d'Antioquia, et la capitale de cette province, c'est Medellín, et qui est juste à deux heures de Jéricho. Jéricho, où elle a passé quelque temps quand elle était enfant, mais peu, elle avait... Les souvenirs liés à Jéricho sont ceux que lui livrait sa grand-tante. Et en fait, elle a voulu revenir dans cette ville pour faire un portrait de sa grand-tante. Parce que sa grand-tante était quelqu'un de très important pour elle. Et elle, par là même, elle a voulu livrer quelque chose sur la transmission. En allant dans ce village, elle n'a pas pu faire le film, le portrait de sa grand-tante de son vivant. Elle est malheureusement décédée avant qu'elle puisse le faire. Alors du coup, elle a eu l'idée d'aller à la rencontre des femmes qui vivent là, à Jéricho, qui ont l'âge qu'aurait pu avoir sa grand-tante si elle avait toujours vécu.
Femme de tempérament, on va en parler dans quelques instants. Je lis juste quelques critiques. Les fiches du cinéma. À Jéricho, petit village enclavé de Colombie, des habitants de toutes conditions nous confient entre nostalgie et impertinence les heures et malheurs de leur existence sur fond de musique et de poésie. Une balade vivifiante dans un monde qui s'éteint. Le journal La Croix, ce documentaire plein de grâce pimpante, Grâce Pimpante, c'est joli, dresse le portrait de femmes imprégnées de religiosité et habitées par la joie, même si la vie ne les a pas toujours épargnées. Le Nouvel Observateur, tour à tour, Cécilia, Célina, Laura, Maria, Luz prennent la parole et le mot qui vient à l'esprit, c'est dignité, larmes et rires, c'est bouleversant. Vous la connaissiez, cette réalisatrice, Louis-Marie, Catalina
Oui, je la connais, oui, je la connais, je l'ai rencontrée. On est devenus, si ce n'est amis, au moins copains. Et ce film a été récompensé à Toulouse, au Festival Ciné Latino en 2017.
Qui est un des grands festivals de cinéma latino.
Américain en France, ouais. Même voire en Europe. Et elle était de retour cette année. Parce que comme le festival fêtait ses 30 ans, elle était invitée pour représenter son film qui avait été primé. Donc. Alors c'était récent, évidemment, mais elle était là pour ça. Le film avait été choisi aussi par des spectateurs. Et de surcroît, elle faisait partie du jury du prix du documentaire. Dont nous alors on n'était pas jurés tous les deux, mais on jugeait les mêmes films puisque j'étais là pour Cygnis.
Donc ce film justement a eu, semble-t-il, la mention spéciale du jury Cygnis, qui est donc un prix chrétien. On en parlera peut-être un petit peu plus loin. Dites-nous, en fait, je sais pas à quoi ressemblent ces femmes à propos de sa tante. J'ai lu dans une interview qu'elle a donnée qu'elle aimait cette femme parce que elle avait la capacité de relier à la vie, c'est-à-dire, je cite Catalina Messa, c'est-à-dire d'être capable de parler de la douleur avec beaucoup d'humour ou de parler de choses difficiles mais avec beaucoup de force. C'était une sorte de réconciliatrice des opposés de la vie tout le temps. Voilà, qu'est-ce que vous diriez pour ce qu'on voit en tout cas dans la bande-annonce ou les quelques extraits que j'ai pu voir en espagnol, j'ai l'impression que c'est vu de loin, pour ne pas avoir vécu là-bas, mais il y a quelque chose de la magie de l'âme latino-américaine qui vit de contraste, mais tout ça est vécu avec couleur.
C'est toujours l'image qu'on a des pays latins et latino-américains en particulier, c'est que avec le climat, on est souvent sur le pas de la porte, on est souvent à la fenêtre, on peut s'apostropher, on se connaît, et ainsi on échange plus facilement. Et elle a voulu, Catalina Messa, donc je le disais, faire un portrait de sa tante, mais aussi préserver le patrimoine que représentent ces femmes, que représente c'est un patrimoine immatériel forcément, de ce que représentent ces femmes pour cette petite ville, ce village en particulier, mais plus généralement pour ce que sont les femmes colombiennes et les femmes dans le monde.
Les femmes en Amérique latine. On en parlait en préparant l'émission, par exemple, on pense au maire de la place de Mai,
oui,
à Buenos Aires.
Évidemment. Et là, donc, c'est à la fois ce lien, donc je parlais de patrimoine immatériel, à la fois ce lien spirituel qu'elles ont, et puis cette culture qu'elles mettent en avant. Et puis, cette façon de balancer entre le sacré et le profane. Et dans une même phrase, on peut parler d'une chose
pas,
et dire...
Ce qui n'est pas si habituel que ça, peut-être, en France. J'ai noté quelques extraits. Il y a une des femmes comme ça que l'on voit marcher, assez imposante, qui arrive dans l'église et puis elle s'adresse à Dieu. Elle dit « Bonjour, c'est Chila ».
Voilà, oui.
Elle parle comme ça à Dieu. Il y en a une autre qui raconte qu'elle voudrait mourir à Jéricho, mais en espérant aller dans la Jérusalem céleste. Il y en a une autre qui présente l'enfant Jésus dans sa main et elle dit à quelqu'un d'autre « C'est mon mari, je te le présente ». Je ne sais pas, c'est assez inhabituel peut-être cette foi si simple et spontanée dans des films. Est-ce que ça vous a parlé ?
Oui, oui, c'est, et évidemment, cette façon de faire, c'est ça. Alors pour nous, et pour quelqu'un qui est ancré dans une certaine tradition, ça peut surprendre, peut-être choquer. Moi, ça m'a pas choqué, mais ça.
Tradition ça cartésienne, vous voulez dire ?
Oui, c'est ça, exactement, une tradition cartésienne. Mais elles emportent tellement, c'est-à-dire qu'elles sont, là, ces femmes, et elles sont là. Et il y a tout qui se conjugue à la fois ce village pimpant. On parlait de Pimpant à l'instant à propos
de plein de couleurs
du film et puis de ce que disait la croix à propos du film. Et c'est ça, les façades, c'est plein de couleurs et c'est à leur image. Alors il y a Chila, effectivement, dont vous avez parlé, qui rentre et qui dans l'église, qui dit salut Dieu, puis quand elle parle d'elle, elle s'épanche sur ses amours, elle raconte tout ce qu'elle a vécu. Elle, il y en a une autre, Luce, c'est extraordinaire, elle n'a pas pu épouser parce que trop foncée, elle était trop foncée, son amoureux, qui du coup est devenu prêtre.
On espère quand même qu'il y a eu un peu plus de discernement. En tout cas, c'est peut-être l'idée qu'elle s'en fait.
Oui, mais en tout cas...
C'est comme ça que c'est présenté.
C'est comme ça. Et lui, parce qu'il était, mortifié, quoi. Il était mortifié.
Jéricho, le vol infini des jours de Catalina...
C'est l'envol infini des jours.
Pardon, l'envol infini des jours de Catalina Messa. Donc, film à l'affiche, allez voir. On va faire une pause musicale, qui est donc un extrait de la musique qui est... Non
que, comme on oui, entend oui, dans oui. Ce, film, ce qui est très important, c'est à la fois... vous avez parlé de la poésie et à la fois de la musique. C'est à la fois... Il y a tout. C'est poétique, sonore, tout est là. Les images... Tout contribue à cette ambiance qui fait de ce film quelque chose d'assez extraordinaire.
Ça lui a plu, en tout cas ça se voit, vous n'avez pas la vidéo, mais moi je peux vous le dire. À tout de suite. Le grand écran de Vivante Église, c'est pour rappel donc le thème de l'émission Vivante Église de ce jour, avec autour du plateau donc Paul Dima, entre autres donc animateur du Ciné Parole, Ciné Club en lien avec le cinéma L'ABC à Toulouse, et Louis-Marie Soler, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse, lui-même animateur dans ce Ciné Parole. Nominé pour le chef-d'œuvre humaniste de ce mois, Just a Kiss de Ken Loach. Voilà, Kenoch qui aura été bien mis en valeur cette année, puisqu'on a parlé de quoi ? Deux ou trois films de Kenoch ?
C'est le troisième film dont on parle.
Troisième film. Donc l'année prochaine...
On va changer.
Il est interdit. Bref, on sent qu'il y a quelques préférences, mais on ne va pas s'en plaindre. Hein. Voilà, ça fait partie de... Bon, je ne ferai pas de commentaires. Je propose qu'on commence par écouter la bande-annonce en français de ce film pour lancer la conversation.
Excusez-moi, c'est vous la dame du piano à queue ?
Ça se pourrait bien.
Ça vous dit pas de venir à un concert ce soir ? Un truc tranquille, blues et swing.
Y a plein de nanas partout, et toi il faut que tu tombes raide dingue de celle-là. Elle n'est pas musulmane, je vais la perdre.
Avez-vous des relations sexuelles sans être marié ?
Ça vous regarde pas ?
Si ça me regarde, vous ne m'avez pas écouté. J'ai une responsabilité envers les parents des enfants catholiques à qui vous faites cours. Vous croyez que vous pouvez coucher avec Pierre, Paul ou Mohamed et venir ensuite faire cours à nos enfants catholiques ?
Il y a le curé avec sa bande de grenouilles de bénitier d'un côté et il y a ton père et ses putains de mollas de l'autre et nous on est coincés au milieu.
Qu'est-ce que tu fais de tes valeurs, hein ? Qu'est-ce que tu fais de ta culture, de ta religion, hein ? Mais écoute ta mère, on est tes parents, on donnerait notre vie pour toi, on fait n'importe quoi pour toi. Allons !
Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Continuer à mentir jusqu'à ce que ce soit terminé entre nous ? Je vais vous le demander franchement. Vous pouvez quitter mon frère ? Je vous en prie, quittez mon frère. Non.
Voilà, Just a Kiss, donc film de Ken Loach sorti en 2004, voilà, qui a été primé, je ne sais pas s'il a eu des grands prix, en tout cas ceux que j'ai notés, César du meilleur film de l'Union Européenne en 2005, et prix du jury œcuménique du festival, lors du festival de Berlin en 2004 aussi. Donc c'est l'histoire, je vous laisserai compléter Louis-Marie ou Paul. L'histoire se tient donc à Glasgow, donc en Écosse, entre un jeune Kassim, donc issu d'une famille pakistanaise musulmane, qui a fait des études d'économie, si j'ai bien compris, et qui est un jeune disque jockey, voilà, quelqu'un de son temps et de sa génération, mais dans une famille très marquée, et qui, à la faveur d'une rencontre assez fortuite ou providentielle, rencontre une professeure de musique de sa sœur, Tahara, qui s'appelle Roisin, c'est comme ça qu'on dit ?
Oui,
Roisin. Et donc, c'est le coup de foudre entre ces deux jeunes. Ils ont 25-30 ans, quoi. C'est la passion amoureuse, hein, passion dévorante, voilà, qui pourrait paraître à certains voilà, un peu folle. Et ces jeunes se heurtent à peut-être à l'interdit de leur amour. Comment vous compléteriez, Louis-Marie Soler, cette courte présentation ?
Ben vous avez pratiquement tout dit, si ce n'est que Ken Loach sort un peu de sa zone de confort. C'est caricatural ce que je dis, parce que parler d'une zone de confort pour décrire les films dans lesquels il dénonce toute forme d'injustice, c'est un peu leste quand même. Mais c'est ça.
Hein. C'est souvent un cinéma entre guillemets plus social, non ?
Oui, c'est ça, social, politique. Là, cette fois-ci, d'habitude, il se consacre plus volontiers au monde ouvrier. Et là, il va explorer ce qui se passe dans une famille bourgeoise, parce que c'est le cas, comme ils sont pakistanais, bourgeois, et qui vivent donc à Glasgow. Et donc, vous l'avez bien dit, c'est l'amour entre ces deux jeunes gens, ce jeune homme et cette jeune femme. Lui est pakistanais et musulman, elle est écossaise et catholique.
Alors peut-être la question que je vous poserai, peut-être un peu provocante, c'est pourquoi est-ce que pour vous c'est un très beau film, voire un chef-d'œuvre. Moi j'avoue que j'ai trouvé que c'était un beau film, de là à dire que c'est un chef-d'œuvre, je n'aurais pas mis ce label cette fois-ci, mais non, vous allez certainement m'éclairer.
On peut pas dire que ce soit un label, mais c'est le talent qu'a Ken Loach, je le disais à l'instant, quels que soient les thèmes qu'il met en scène, qu'il raconte, il y a toujours cette façon de filmer, cette façon d'être au plus près, cette façon de le son naturel toujours. Il est toujours près de ses acteurs, près de ses personnages, et on est avec eux, on ressent ce qu'ils ressentent. Je dis pas que dans d'autres cinémas, dans d'autres films, on ne puisse pas avoir ce genre de sentiment, mais avec Ken Loach, c'est toujours comme ça. Et comme ça le plus souvent. Et ce qui donne sa puissance, même si le sujet, comme vous l'avez dit, c'est une espèce de Roméo et Juliette contemporain, avec dans notre société actuelle, avec les problèmes de religion. En plus, la religion, la communauté, la famille, on va en reparler.
Paul Dimard, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il vous a plu ce film, ou pourquoi pour vous c'est vraiment un très beau film. Une question peut-être introductive au reste.
Alors certains critiques ont dit, tiens, voilà, Ken Loach renie un peu son genre habituel et nous fait une romance amoureuse, voilà. Mais c'est un peu à courte vue de s'en tenir à ça. Parce que le génie de Ken Loach, c'est, même en abordant un autre genre de film, ou de fait, c'est une histoire de rencontre amoureuse, on disait un Roméo et Juliette d'aujourd'hui, mais qui pointe en même temps quelque chose qui a toujours été au cœur des films de Ken Loach, une dénonciation de l'intolérance, de l'injustice, et un parti pris non fin et non caché, d'être du côté de ceux qui sont écrasés, soit par un système économique, un système social, et ici, de gens qui sont cadenassés, et ça remet en cause leurs relations par les interdits culturels, religieux, et l'incapacité, aussi bien du côté musulman que du côté catholique, de s'ouvrir à la rencontre de l'autre. Et alors, cette histoire d'amour va évoluer le long du film, et à un moment, Roy Zinn pose la question, elle dit, mais alors on va être obligé de continuer à se mentir et à laisser mourir une histoire qui est si belle, à cause de ton contexte familial et moi à cause de l'obscurantisme de l'Église et la perte du travail dont elle est menacée. Et là, ils osent prendre le chemin de la vérité et de la liberté.
Voilà, donc les religions sont pas à l'honneur dans ce film. Bon, peut-être qu'on y reviendra après. On s'était dit que c'est une illustration aussi. Enfin, m'était venue cette réflexion que je vous ai partagée en préparant l'émission, que l'amour, le mariage d'amour, on l'oublie souvent, est une réalité, on va dire, en Europe et en Occident, surtout depuis la fin du 19e siècle. Ça veut pas dire que ça n'existait pas avant, mais de manière assez systématique. Et donc, c'est quand même un des trésors aujourd'hui de la vie en Europe. Disent que c'est la longue christianisation quelque part de la culture européenne ou occidentale qui permet aujourd'hui ça. Et là, on se retrouve en fait dans un pays européen avec des gens qui sont coincés de part et d'autre. J'explique juste comment ils sont coincés. Donc elle perd son travail parce qu'elle ne reçoit pas le certificat de bonne conduite. Elle tombe sur un prêtre qui est quand même légèrement intégriste. Hein.
Assez caricatural.
Voilà, assez caricatural. Parce qu'elle a été mariée et qu'elle vit avec cet homme. Et lui, donc, est d'une famille pakistanaise musulmane qui n'imagine pas que l'on puisse épouser une femme qui ne vous est pas présentée par la communauté et qui plus est, qui est musulmane. Voilà, je ne sais pas, vous avez un commentaire sur cet amour qui peut paraître aujourd'hui... alors, ça n'est pas une évidence pour tout le monde, hein, mais on se marie ou on chemine ensemble dans la vie par amour, et c'est pas si récent dans l'histoire de l'humanité. C'est...
Non, effectivement, c'est pas vieux. C'est un petit siècle. C'est rien du tout.
Un petit siècle. Peut-être l'autre question derrière, c'était, on s'était dit, c'est une manière de dénoncer aussi une forme de... d'idolâtrie. Voilà, ces deux, ce prêtre ou cette famille pakistanaise particulièrement, est un peu enfermée dans son système de valeurs, et elle finit presque par idolâtrer la famille. On a l'impression qu'il y a un conflit de loyauté à un moment pour ce jeune. Qu'est-ce que vous feriez comme commentaire sur ce sujet, Paul Dimard ?
Je ne sais pas si j'emploierais, pour ma part, le mot d'idolâtrie. Je dirais plutôt l'incapacité à penser qu'autre chose que ce dans quoi on a vécu soit possible. C'est-à-dire que les choses sont tellement en place, tellement cadrées, tellement organisées, que si on fait un pas en dehors de ce qui est prévu, tout s'écroule. Et on le voit bien là, c'est quelque chose qu'on retrouve chez des personnes qui sont immigrées, où la religion constitue le lien à leur histoire, à leur passé, à leur tradition, et chez les Britanniques, avec le système communautaire, qui est très fort, bien plus qu'en France, le communautarisme même, c'est ce qui continue à porter l'identité, et on se marie entre soi, et on se... Donc, tout fait système. Et il n'est pas possible d'en sortir. Enfin, au moins pour le père là, de Kassim, il lui prépare la maison, comme il prépare son mariage, le mariage de son fils, comme ça va de soi que c'est sa cousine éloignée qu'il doit épouser.
Le fils est promis à une autre femme.
Il est promis, la famille, là, a prévu le mariage avec une autre femme. Et manque de chance, il tombe amoureux d'une étrangère qui, de plus est, catholique, etc. Donc, c'est pas possible. Et il y a une scène qui est très touchante dans le film, c'est la sœur de Kassim qui rencontre l'amoureuse, hein, son amoureuse, en lui disant « Est-ce que tu pourrais arrêter la relation avec mon frère ?» Parce que on sent que toute la famille est détruite par l'irruption de cette nouveauté, et Roy Sine répond « Non ».
On l'a entendu juste à la fin de
la bande-annonce.
C'est effectivement très... très touchant. C'est ce qui touche, ce que vous avez souligné, Paul, c'est ce qui touche les familles d'immigrés. Il est particulièrement intégré à la société occidentale, à la société écossaise, britannique, Kassim. Mais il balance entre ces deux cultures et il ne peut pas renier sa culture. Ce n'est pas possible. C'est pas possible et pourtant... Il va devoir faire un choix, comme elle devra faire un choix également. Il n'y a pas que lui. Roy Sine est dans la même situation.
Est-ce que ça vous inspire un dernier commentaire peut-être sur l'obscurantisme religieux? On se disait avec Louis-Marie, en parlant, que le prêtre n'est vraiment pas à l'honneur, peut-être pas comme dans certains films de Clint Eastwood,
où une figure de
prêtre, on va dire, un peu plus intelligente. Donc on peut s'interroger peut-être sur la représentativité des figures religieuses mentionnées dans ce film. C'est peut-être un des excès quand même de Ken Loach, non? C'est que lui aussi n'a pas une forme d'obscurantisme à l'égard des religions
En même temps, ce prêtre, alors il est présenté de façon un peu caricaturale, mais il est responsable d'une école catholique et il y a la pression des parents d'élèves catholiques pour qui, enfin, je veux dire, le système, il est dans le rouage du système et il défend l'orthodoxie.
Et parce que ça peut se savoir que la prof a été mariée.
Ah bah oui, bien sûr, et donc l'opprobre sur l'école, et voilà, il peut pas dire autre chose. Et ce qui est intéressant, c'est que là, malgré le côté un peu caricatural, Ken Loach démontre bien que ça fait système et que on est pris un peu dans ces étaux dont voilà, la liberté se paie très cher.
Alors, quelle morale peut-être vous en avez retiré? Enfin, je ne sais pas, ou leçon. Quelle est la leçon du film, si vous deviez la résumer, Paul?
Alors,
savoir sortir de son système de pensée et culturel.
Savoir accepter l'autre comme différent, mais aussi au prix d'une grande solitude. C'est-à-dire que le couple se constitue, mais il est tout seul. Il est coupé de tous ses liens.
Louis-Marie, la leçon, c'est quoi? C'est que la liberté entraîne la solitude?
La liberté entraîne la solitude, en tout cas, c'est ce qui leur arrive. Mais en fait, la fin est quand même... C'est un espoir, malgré tout ce qui se passe à la fin. Hein. Et c'est d'autant plus à souligner que Ken Loach, désespoir, quand il émet à la fin, c'est rare dans ses films. Et donc celui-là, il faut bien le souligner, il y a un espoir. Bon, oui, ils ont choisi de rester ensemble. Voilà. Et ça, c'est quand même... Louis, rien que ça suffit à emporter le film, à emporter en tout cas le spectateur à la fin du film.
La vie gagne sur le carcan, quel qu'il soit.
Just a Kiss, c'était donc un film de Ken Loach, voilà, troisième film de l'année, nominé dans la sélection donc des chefs-d'œuvre, en tout cas des beaux films à voir. On va faire une deuxième pause et puis on va parler d'un chef-d'œuvre. Alors là, j'avoue que je signe des deux mains et des deux pieds, donc Sous le soleil de Satan de Maurice Pialat, film absolument splendide, très déroutant, on va le voir, comme l'avait été peut-être la presse au moment du Festival de Cannes quand il a été primé. Voilà mes films sur lesquels il y a évidemment beaucoup de choses à dire.
Emmanuel Pella.
Le grand écran de Vivante Église, l'un des rendez-vous phares de cette émission, en tout cas, je crois, assez apprécié des auditeurs. Dernière édition de cette saison 2017-2018, avec pour rappel autour du plateau Paul Dima. Voilà, donc entre autres animateur du Ciné Parole, Ciné Club, en lien avec le cinéma L'ABC à Toulouse, et Louis-Marie Seller, entre autres Monsieur Cinéma de Radio Présence, avec l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse. Dernier film donc choisi, chef-d'œuvre spirituel, Sous le soleil de Satan, de Maurice Pialat, sorti en 1987. Voilà, film dramatique, en tout cas présenté comme tel. Inspiré d'un livre de Bernanos. C'est l'histoire, alors non, on va écouter la bande-annonce et puis après on racontera quelle est l'histoire de ce film.
Au début, je ne connaissais pas le mal.
C'est Dieu qui nous nomme.
Nous devons être inspirés du mot nécessaire et infaillible, celui-là, et pas un autre.
Il est là.
Ah, si tu savais le sort que te réserve ton maître.
Je ne te crains pas. Je suis sûr qu'un mot de moins, mon Dieu, ressusciterait ce petit mort.
Je ne serais pas surpris que vous ayez formé quelques vœux dangereux.
Sous le soleil satan de Maurice Pialat. Donc l'histoire, c'est donc l'histoire d'un prêtre, un jeune abbé, l'abbé Denisson, qui est joué par Gérard Depardieu. Voilà, abbé qui peut paraître assez étrange, qui est accueilli dans une cure dans le nord de la France par un autre prêtre, Menou Segré, qui est joué lui-même par Maurice Pialat, donc réalisateur de ce film. L'histoire de ce prêtre, comment résumer la suite ? Prêtre qui, de son aveu même, est un peu particulier, pas toujours apprécié des fidèles, voilà, rongé peut-être par le doute sur sa vocation, et que l'abbé Menou Segré confirme et lui dit qu'en fait c'est quelqu'un qui c'est une graine de saint, voilà. C'est une scène absolument splendide, cette scène, vraiment moi ça m'a beaucoup ému. Et derrière, on va dire, se déroule quelque part, de manière apparente, ou presque, autant qu'on le peut, la vie mystique absolument particulière et extraordinaire de cet homme. Qu'est-ce que vous diriez, Louis-Marie, pour juste présenter ce film assez hors norme ?
Il est hors norme pour Pialat, mais c'est aussi un retour aux sources pour lui. Enfin, un retour aux sources, c'est pas tout à fait ça, mais c'est une envie de filmer à nouveau comme il l'avait fait dans d'autres temps. Avant, il venait de faire Police, qui était dans un genre radicalement différent, et il voulait revenir à ce qu'il avait fait avant. Et puis, il voulait trouver un sujet qui puisse adapter et enfin montrer au cinéma et qui puisse lui permettre d'obtenir la Palme d'Or. Parce qu'au départ, c'était ça.
Vous voulez dire qu'il faire. Il a fait un film pour obtenir la Palme d'Or ?
Oui, exactement.
C'était la seule intention du film ? Non.
C'est pas la seule intention du film, mais c'était une des intentions, ça c'est sûr. Sûr.
Alors, vous clignez pas de l'œil, mais vous me lancez, je pense que c'est ce que ça veut dire. Film donc qui a été primé donc, au Festival de Cannes et qui a obtenu donc, la Palme d'Or en 1987 aussi. Hein.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et donc, pour l'histoire, ce film donc, a été primé. Mais dans des conditions très surprenantes. On va écouter Yves Montand, président du jury cette année-là, qui annonce devant les caméras d'Antenne 2 que la Palme d'Or a été donnée à Maurice Pialat, et donc Sous le soleil de Satan, et vous allez voir la suite.
Satan est prince de ce monde. Il l'a dans ses mains.
Voilà, il y a une petite erreur, ça arrive de temps en temps. On va écouter le bon son, tout de suite on le lance. Voilà, donc ça c'est l'extrait, le bon, donc au moment de la Palme d'Or. Je rajouterais juste que Yves Montand a dit aussi la chose suivante. Le travail réussi de Pala est un travail qui met le cinéma sur un autre niveau, à un autre étage. On peut forcément, moi-même je suis comme ça, être sensible à des films peut-être un peu plus abordables, plus faciles. Mais heureusement, il y a des Piala, des Godard, des René pour porter le cinéma à une autre hauteur. Est-ce que vous nous expliquez, Louis-Marie, pourquoi la presse a réagi comme ça en fait ? C'est que cet homme était détesté ou c'est...
Attention, c'est pas la presse. Au moment où la Palme d'Or est attribuée par le président du jury, dans la salle, il n'y a pas la presse. Ce sont les festivaliers qui sont dans la salle. Hein. On a tendance à oublier la presse. Il y a bien quelques
j'ai entendu
journalistes.
Des extraits, la presse était sur
le film. La presse était partagée, mais c'est pas la presse qui a fait une bronca, hein. C'est pas la presse, c'est les festivaliers. On entend un des membres du jury qui, chaque fois qu'elle est membre de jury, est le plus souvent la coprésidente. C'est Catherine Deneuve, vous avez reconnu sa voix, qui demande justement aux spectateurs de laisser parler Piala pour qu'il puisse, en fait, se justifier. Lui, il n'a pas voulu justifier. Et il a eu raison de pas se justifier. Il avait pas à justifier. On peut ne pas aimer son film, mais l'accueillir comme ça. Mais ça fait partie de l'histoire du Festival de Cannes. C'est pas le premier à qui c'est arrivé, et c'est sans doute pas le dernier.
Alors, première réflexion, c'était dit, voilà, comment vous illustreriez ce que dit Yves Montand à propos de ce film qui hausse le cinéma à un autre étage, qui met le cinéma à une autre hauteur, selon ses propres mots. Pourquoi, Paul Dima?
Alors, tout contribue dans le film. Alors, c'est inspiré, mais avec beaucoup de liberté, donc du livre de Bernanos.
Du même nom.
Mais Piala en fait une œuvre qui a sa force propre à plusieurs niveaux. Par le choix des cadrages, on a souvent des personnages qui sont au centre de l'image, mais perdu. Alors il y a un contraste très fort entre les scènes d'intérieur où il y a des lumières sombres et des clairs obscurs, des lumières très contrastées qui témoignent de la tension intérieure entre les ténèbres et la lumière. Et puis les scènes extérieures avec des plans plus larges où le personnage, en particulier de l'abbé de Nissan, joué par Gérard Depardieu, qui est un peu perdu dans le paysage et qui, tout colosse qu'il est, encore qu'il est assez fluet encore, il est jeune. Et
il n'a pas encore la stature qu'on lui connaît.
Qu'on lui connaît aujourd'hui, mais qui est à la fois paraît très fort et très faible en même temps. Et ça, c'est le génie de Piala dans ce film, où il montre à travers le visible qu'il y a de l'invisible. C'est-à-dire, c'est pas de montrer ce qui est invisible, c'est de montrer par le visible qu'il y a de l'invisible. Et ça, c'est très fort. Et que toute la construction du film montre ce débat intérieur, qui est aussi celui du réalisateur, et qui provoque chez le spectateur un retour sur son propre débat entre le profane et le sacré, entre le bien et le mal, et tout le film joue là-dessus.
Louis-Marie, qu'est-ce que vous diriez ? Pourquoi est-ce que pour vous ça hausse le cinéma à une autre hauteur ? Moi, évidemment, j'ai été frappé aussi par la grande profondeur des dialogues. Je ne sais pas s'ils sont tous empruntés au livre de Bernanos, mais bon, en tout cas, voilà, le résultat est là.
En tout cas, il s'en est servi, il les a peut-être réécrits, mais ils étaient aussi dans le livre de Bernanos. Peut-être pas sous cette forme.
Pourquoi ça hausse le cinéma à une autre hauteur pour vous?
C'est le choix, c'est ce parti pris de mise en scène qu'il a utilisé, et puis il justifie son athéisme dans le film. Il est athée, il le revendique, Piala, et il représente le sacré d'une façon aussi bien réaliste que fantastique. C'est ce que disait à l'instant Paul Dima, c'est-à-dire qu'on balance entre les deux, et c'est ce qui permet de montrer quels sont les tourments du personnage. Vraiment, comment il est pris, c'est incroyable ce qui arrive à cet abbé Donissant, et c'est cette façon de le montrer, cette façon de montrer combien la vie en paroisse pouvait se résumer à un huis clos le plus souvent, hein, et les échanges, on parle pas avant que l'autre n'ait fini de parler, c'est-à-dire qu'il parle. Et puis son interlocuteur parlera.
J'avoue que c'est... moi, c'est ce qui m'a plu aussi, c'est qu'il s'écoute.
Oui, mais c'est.
Ça peut paraître d'un autre âge, mais.
C'est pas un autre âge, c'est pas ça. C'est parce que c'est un parti pris de mise en scène.
C'est presque du théâtre, c'est forcément.
C'est presque du théâtre. C'est pas vraiment du théâtre, mais c'est. On laisse le temps aux personnages de dire ce qu'ils ont à dire. Une fois que c'est dit, l'autre peut prendre son temps pour dire ce qu'il a à dire. C'est ça. Ça peut pas se chevaucher. C'est pas tout le temps ça, la vie. C'est des moments où on est confronté, on peut débattre, on peut se couper.
En tout cas, c'est un film qui fait place au silence, aussi à sa manière, hein, tant dans les images que dans les dialogues. Je vous propose qu'on écoute un extrait. C'est à la fin du film, l'abbé Donissant est appelé par une famille d'agriculteurs qui viennent, l'un de leurs enfants vient de mourir, et l'abbé Donissant s'y rend avec un autre prêtre, ou rejoint un autre prêtre sur place, et il dialogue avec celui-ci, avant, pris dans un grand tourment intérieur, parce qu'il ne sait pas si c'est Dieu ou si c'est Satan qui lui parle.
Satan est prince de ce monde. Il l'a dans ses mains. Il est là, vainqueur. Avez-vous compris? Je vous dis que nous sommes vaincus. Et Dieu avec nous, vaincu, vaincu.
Quel blasphème.
Laissez-moi. Ne m'écoutez plus.
Vous laissez? Mais rien n'est impossible ni incroyable pour des hommes tels que vous. Je vous suis. C'est Dieu qui vous inspirait tout à l'heure. Allons rendre le petit mort à sa mère.
Dieu se joue de moi. De lui ou de vous, dites quel est le maître. Montrez-vous avant de m'abandonner pour toujours. Je reçois par avance votre décision souveraine.
Ah! Il est vivant! Il vit! Il vit! Vous êtes un saint! Un saint!
Donc cette scène, en fait, donc vous l'aurez compris, donc on voit l'abbé Donissant aller chez cette famille et en fait finir par suivre l'inspiration de son cœur et prier donc pour la guérison miraculeuse de cet enfant, et cet enfant retrouve la vie. Moi, je dirais, pour peut-être lancer la conversation sur ce point, que ce qui m'a énormément frappé et ce que j'ai trouvé d'une grande profondeur dans ce film, c'est que cet homme apparemment peut en effet paraître un peu fou, hein. Il peut paraître être obsédé par Satan, par les ténèbres, et en même temps, pour qui connaît ou a entendu parler un tout petit peu de la vie mystique, Saint Jean de la Croix, donc grand mystique s'il en est, parle de la nuit obscure, ou en tout cas il y a une forme, plus on avance dans la vie spirituelle, plus on rentre dans une forme d'obscurité. Certains ont cette image, et ils prenaient cette image était prise par exemple à propos de Mère Teresa, grande sainte dans l'Église, qui a vécu dans les ténèbres de la foi pendant presque 30 ans. C'est comme si en fait vous étiez éclairé par des phares et vous êtes tellement proche de la lumière de Dieu que vous ne la voyez plus, voire vous ne voyez plus que vos ténèbres. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Alors peut-être faut-il être croyant pour voir cela, sinon ça peut paraître fou et inquiétant, mais moi j'ai trouvé que c'était d'arriver à figurer ça dans ce qu'on a entendu de l'Alextrait, c'est du grand cinéma. Je ne sais pas ce que ça vous inspire comme commentaire, l'un ou l'autre.
Oui, ce que dit l'abbé Donissant avant le miracle, tel que le dit le maire de cet enfant, c'est « Dieu avec nous vaincu ». Et l'autre prêtre lui dit « blasphème ». Et en fait, pour Donissant, ce n'est pas le blasphème, parce que Dieu est avec nous. Et il y a quelque chose de la mort du Christ en croix. C'est-à-dire que dans la mort du Christ, on dit « Dieu n'existe pas, Dieu est vaincu », mais ce n'est pas ce qui se passe sur la croix, ce n'est pas les paroles qui sont dites qui disent la puissance de Dieu, c'est que après Dieu ressuscite son Fils. Mais tout le monde dit, vous voyez bien que ce n'est pas le Fils de Dieu. Et là, il y a une espèce de communion, et comme disent les mystiques, « Je crois le jour, mais c'est de nuit », disait saint Jean de la Croix, c'est-à-dire que la foi n'empêche pas la nuit, c'est pas l'un ou l'autre. On peut croire de nuit. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait à la fin de sa vie, j'ai des pensées telles que les athées n'en ont pas. Et pourtant, elle continue à croire. Et pourtant, il continue. Et alors là, il prend l'enfant dans ses bras et il dit à Dieu, montre que tu es vainqueur de la mort. C'est pas les mots qu'il emploie exactement, mais c'est ça. Mais en même temps, c'est un peu comme lui qu'il porte à travers l'enfant, c'est lui qui s'offre à Dieu. Ici, le sacré s'enracine un peu dans le sacrifice, la mise à mort, mais l'espérance que la vie est plus forte parce qu'elle vient de Dieu. Mais l'espérance. Et donc il y a toute la dramatique de cette tension mort-vie qui non seulement n'est pas évacuée, enfin la foi ne protège de rien, ne met à l'abri de rien, mais elle permet que la vie advienne quand même.
Louis-Marie, vous avez un commentaire ou... J'en avais un autre sinon.
Allez-y, je vous en prie, parce que moi j'allais parler de la forme.
D'accord, mais vous pouvez parler de la forme quand même. Hein. Je m'étais dit juste, on en avait parlé un petit peu, qu'il y a quelque chose aussi de très évangélique dans ce film, en ce sens que cet abbé Donissant est une figure assez christique parce qu'il sert de révélateur aux uns et aux autres. J'aimerais par exemple qu'on parle de la relation qu'il a avec l'abbé Menou-Segré, donc qui est joué par Maurice Pialat. Il se présente en fait auprès de cet abbé comme un jeune vicaire incapable, et l'abbé Menou-Segré en fait lui confesse que... il lui fait comprendre en fait quelle est la profondeur de son sacerdoce. Paul Dima, est-ce que vous avez vu ça aussi dans le film? Est-ce que vous pourriez le commenter?
Oui, tout à fait. Et ce prêtre plus âgé voit bien que dans la faiblesse et le côté un peu désarmé et dérouté de ce jeune prêtre, il y a quelque chose de la sainteté en lui qui se joue. Et il confirme ce jeune prêtre en lui disant « Allez-y, je vous envoie vers les âmes, je vous envoie à votre mission. » Il lui dit, et c'est Maurice Pialat qui joue le rôle de l'abbé Menou-Segré, il dit « Là où Dieu vous appelle, il vous faudra monter ou vous perdre. N'attendez aucun secours humain. En doutant de vos forces et des desseins de Dieu sur vous, vous étiez dans une impasse. Je vous remets sur votre route, je vous donne à ceux qui vous attendent et dont vous serez la proie. » C'est très fort, il y a quelque chose de sacrificiel, mais pas au sens de... c'est la mort qui est la finalité, ça passe par la mort pour la vie, quoi.
Voilà, je propose qu'on s'arrête là-dessus, puisque je vois que de toute façon l'émission touche à sa fin. Un grand merci à l'un et à l'autre, donc pour cette longue année cinéma. Et donc, je ne crois pas prendre trop les devants. Rendez-vous est donné l'année prochaine pour Ciné-Parole et pour cette émission Le Grand Écran de Vivante Église. Merci beaucoup, messieurs, pour cette émission et pour toutes vos interventions au long de cette année. Les trois films à voir, c'est donc pour le premier...
Jericho, le film de Catalina Mesa.
Voilà, le deuxième, Just a Kiss de Ken Loach, et le troisième, Sous le soleil de Satan de Maurice Pialat. Allez voir au cinéma ou profitez des vacances pour voir ces films magnifiques. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.